Monsieur le curé, frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église pour rendre grâce au Seigneur pour votre pasteur, pour les 30 ans de son ordination sacerdotale et les 25 ans passés parmi vous à s'efforcer de vous faire croître dans la foi, l'espérance, la charité, à vous distribuer les sacrements qui vous permettent de prétendre non pas seulement à la vie sur terre ici-bas, mais à la vie du monde à venir. En cette action de grâce, alors que nous venons d'entendre dans l'Évangile cette rencontre entre le Seigneur et ce jeune homme, nous pouvons y voir les traits de notre jeune abbé Mété, ou même de notre abbé avant même qu'il ne soit prêtre. Nous le voyons accourir alors que le Seigneur est en route. Nous le voyons se mettre à genoux et demander dans sa prière au Seigneur, « Bon Maître, bon Dieu, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et dans son élection, le bon Dieu lui a manifesté cette volonté confortée par le discernement de l'Église. « Sois un prêtre, paie mon troupeau. » Nous le voyons, eh bien, quitter tout pour se mettre à la suite du Seigneur. Avec le prophète Jérémie, nous pouvons dire la prière qui fut la sienne, celle que nous trouvons dans les Saintes Écritures. « Vous m'avez séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus pose un regard d'amour sur ce jeune homme. Il l'aima. Eh bien, voilà que chacun d'entre nous, quels que soient nos états de vie, avons à nous laisser regarder par le Christ. Alors celui-ci nous aime, car nous demeurons en son amour. Et c'est dans cet abandon, dans cette confiance en la providence divine, que nous pourrons alors prétendre à la vie éternelle. Si le Seigneur l'a choisi, si le Seigneur l'a établi comme votre pasteur, c'est pour qu'il puisse porter du fruit, et quel autre fruit pourrait demeurer si ce n'est pour prétendre à la vie éternelle? C'est bien cette problématique que nous retrouvons dans les Saintes Écritures de ce dimanche. Nous entendons Saint Pierre déclarer, eh bien, qu'il a tout quitté pour suivre le Seigneur. Eh bien, nous voyons cette vie donnée de l'abbé Mété, cette vie donnée plus largement du sacerdoce à la suite du Seigneur Jésus, pour que vous ayez la vie, mais la vie en abondance, la vie du monde à venir. Le Seigneur Jésus l'a déclaré, qui peut être sauvé? Pour les hommes, c'est impossible. Mais en revanche, rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Voilà que le bon Dieu a voulu, pour que nous soyons sauvés, passer par le ministère sacerdotal, pour que nous soient communiqués les dons ineffables de sa grâce puissante, la seule qui peut nous permettre d'aller de cette terre jusqu'à la gloire du ciel. Le prêtre est le ministre du sacrement du baptême. Voilà que celui qui a tout quitté pour suivre le Christ, eh bien, a de nombreuses maisons, de nombreux frères, de nombreuses sœurs, plusieurs mères, plusieurs pères, plusieurs terres. Voilà également que c'est par le prêtre que nous est donnée la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la confession, parce que le bon Dieu a voulu passer par le sacerdoce. C'est également par le ministère sacerdotal que nous est donné le pain vivant qui descend du ciel, le Seigneur Jésus, réellement présent dans la Sainte Communion. Nous le recevons, il établit en nous sa demeure. Tout cela est possible par le ministère sacerdotal. Certes, nous ne pouvons pas obtenir de nous-mêmes cette vie éternelle. Voilà pourquoi le bon Dieu a instauré au milieu de l'Église le sacerdoce pour nous permettre, eh bien, de ne pas être coupés de sa grâce ni de sa présence alors que le Christ est remonté à la gloire du ciel. Par le prêtre, il en descend. Il en descend pour nous faire miséricorde et nous relever. Il en descend pour nourrir nos âmes. C'est donc avec action de grâce que nous faisons monter une vibrante prière pour la fidélité de votre curé, pour ses 30 années de sacerdoce, pour les 30 autres à venir, et tant d'autres peut-être. Nous rendons grâce parce que par lui, nous est donné ici, à Bouillé-Lorée et aux alentours, les grâces de la vie éternelle. Et avec lui, fidèlement, nous intercéderons auprès du bon Dieu à la fin de cette messe pour qu'il accorde de nombreuses vocations sacerdotales à son Église pour que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce dimanche, le jeune homme qui se présente au Seigneur Jésus, non plus notre cher abbé Mettez en cette introduction, mais le jeune homme de l'évangile, est un juif accompli. Non seulement depuis sa plus tendre jeunesse, il est parfaitement observant de la loi de Dieu, mais en plus, comme pour manifester cette préférence de Dieu, cette élection de Dieu, il est doté de très grands biens. Dans la tradition juive, celui qui possède de très nombreux troupeaux, de très nombreuses terres, une maison vaste, abondante, accueillante, est comme le signe de la bénédiction de Dieu. D'où l'une des problématiques de cet évangile, le fait que le jeune homme riche est comme désarçonné quand le Seigneur Jésus lui demande alors de se défaire de toute cette apparence de l'élection divine pour aller à sa suite. Avant cela, tout a commencé par ces quelques mots « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Voilà bien une prière qui nous concerne chacun et que nous faisons monter vers le bon Dieu. Seigneur, qu'attendez-vous de moi pour que je puisse obtenir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus va alors lui rappeler la loi. Non pas, vous le noterez, tous les commandements. Il va lui rappeler les commandements qui concerne la relation au prochain, et dans un ordre décroissant. Il ne commence pas par l'honneur que nous devons à nos parents. Il commence « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère » pour terminer sur ce qui est fondamental pour ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, l'amour familial. Tu honoreras ton père et ta mère. Première interrogation, pourquoi le bon Dieu ne commence pas par lui rappeler les premiers commandements, l'amour de Dieu seul, la sanctification du jour du Seigneur? Tout cela est déjà contenu dans cette interrogation que lui pose le Seigneur Jésus et qui nous peut nous étonner. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Nul n'est bon sinon Dieu seul. Le Seigneur Jésus qui lit dans les âmes comprend bien que ce jeune homme reconnaît qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, et reconnaît sans doute à travers les œuvres dont il a entendu parler que celui-ci n'est pas seulement un homme parmi tant d'autres envoyé par Dieu, mais qu'il est Dieu qui vient à notre secours. Il veut expliciter son acte de foi. Nul n'est bon sinon Dieu seul. Tu dis que je suis bon, que je participe à cette bonté de Dieu, mais pas comme un participant. Je suis Dieu moi-même. Et voilà que ce jeune homme riche est donc conforté dans cet acte de foi. Le Seigneur lui rappelle que s'il doit aimer le bon Dieu de tout son cœur, cet amour doit se manifester dans l'amour du prochain tel qu'il est présenté dans cette loi divine, dans cette loi naturelle. Le Seigneur Jésus entend la réponse, en vérité, de ce jeune homme juif. « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma plus tendre enfance. Il n'y a pas eu dans sa vie un accroc à la loi. » Le Seigneur Jésus ne lui dit pas « Menteur, tu aurais oublié telle et telle action. » Non, le Seigneur Jésus reconnaît, en posant son regard sur lui et en l'aimant, que ce jeune homme a vécu scrupuleusement selon les termes de la loi. Là aussi, il nous faut comprendre la mentalité juive. Le bon juif, non seulement est manifesté comme ayant la bénédiction du ciel lorsqu'il a une vie prospère, confortable, mais aussi en ce qu'il va scrupuleusement observer la loi. Vous savez, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus fustige bien souvent les pharisiens. Quel est le problème avec les pharisiens? Ce n'est pas leur observance de la loi. C'est qu'à force d'observer tous les commandements et la tradition selon laquelle il faut vivre ces commandements, beaucoup finissent par penser que seul le respect de la loi peut garantir la vie éternelle. Si scrupuleusement je suis tous les articles de la loi de Dieu, de l'ancienne alliance, alors, non pas je serai sauvé, alors je suis sauvé. La loi me sauve. Ce jeune homme riche ne se présente pas au Seigneur Jésus ainsi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, bon maître? Il sent bien qu'il a tout observé, mais que intérieurement, il lui manque quelque chose. Il lui manque ce contact avec la source de la divinité qu'est notre Seigneur Jésus le Christ. Voilà pourquoi ce regard d'amour posé par le Seigneur est un moment de vérité, un moment de conversion. Voilà qu'il comprend que ce n'est pas seulement par la loi que l'on est sauvé, mais avant tout par l'œuvre de la grâce. Voilà comment nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament, avec la loi et avec la grâce accordée par notre Seigneur Jésus le Christ. Il n'est pas venu, rappelez-vous, abolir la loi. Il est venu rappeler que la loi n'est qu'un squelette sur lequel il y a la chair qui doit venir prendre place, la chair d'une action bonne et sage. Il s'agit de la sagesse. La sagesse n'est pas qu'une vertu intellectuelle, elle n'est pas que théorique, au contraire. La sagesse, c'est lorsque l'on a l'intelligence des principes que l'on sait adapter à telle situation concrète. Bien souvent, le Seigneur Jésus manifeste à la rencontre des personnes de l'Évangile qu'il y a des fois une étroitesse de cœur. Souvenons-nous l'épisode du bon Samaritain. Il y a cet homme gravement blessé, ensanglanté sur le chemin. Passe un Lévite qui le contourne scrupuleusement. Pourquoi? Parce que si jamais il entre en contact avec cet homme, rendu impur par la perte de sang, il ne pourra plus exercer son culte au temple de Jérusalem. Et le Seigneur Jésus, donnant d'autres exemples dans l'Évangile, lequel d'entre vous, le jour du sabbat, qui aurait son âne tombé au fond du puits, attendrait le lendemain pour l'en sortir? Le Seigneur Jésus veut manifester que l'observance scrupuleuse de la loi ne garantira pas forcément le salut. Elle est le chemin du salut, parce que la loi est autant de bornes pour nous aider à bien vivre, mais que ce bien vivre de la vie éternelle suppose de bonnes actions ici-bas, mais suppose l'ouverture du cœur. Voilà que ce jeune homme riche a déjà tout cela dans cette rencontre avec le Seigneur. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Observez la loi. « Je l'ai observée depuis mon enfance. » Et le Seigneur Jésus, voyant la bonne disposition de cette âme, mais aussi cette soif, il lui manque quelque chose. Le regard du Seigneur Jésus se pose sur lui, il aime. « Maintenant, mon enfant, tu dois te dessaisir de toutes ces richesses d'ici-bas pour obtenir la véritable sagesse. » Cette sagesse, il en a été question dans la première épître. Oui, la sagesse du Seigneur, c'est donc cette alliance entre la théorie et la pratique. C'est ce qui nous permet de bien agir sur le moment, parce que parfois la loi est trop sèche, trop carrée, et qu'il faut un peu de miséricorde et d'onction pour permettre à la personne d'y passer. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui n'est plus chrétien, vous vous en êtes rendu compte, mes frères. Eh bien, voilà que l'Église en vient à développer ce qu'on appelle la doctrine du moindre mal. Cela ne veut pas dire qu'on justifie tout par la doctrine du moindre mal. Ça veut dire que ce que nous visons est tellement haut, et l'état de notre société est tellement bas, que l'on aura beau répéter la loi, la loi, la loi, la loi, ça ne suffira pas. Cette loi du moindre mal est là pour, par palier, nous aider à relever notre société, à faire en sorte qu'elle soit à nouveau élevée vers le bon Dieu, vers sa grâce, pour obtenir la vie éternelle. Cette sagesse de Dieu suppose le discernement. Et comment discerner ? Surtout que dans les situations concrètes, nous n'avons pas souvent 6 jours, 30 jours pour décider quelle réponse donner à notre fils, à notre fille, à notre belle-fille, à nos petits-enfants qui posent une question importante, qui attendent de nous une décision, un conseil. La réponse nous est donnée, j'ai prié et le discernement m'a été donné. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Mais dans cette épître, la sagesse n'est autre que le Christ. Il n'est pas seulement Dieu en théorie dans la gloire du ciel. Il est manifesté comme la sagesse parce qu'il est descendu du ciel, devenant pour nous la cause exemplaire. Nous avons à aimer comme le bon Dieu nous aime. Nous avons à aimer comme le bon Dieu a manifesté son amour en ayant de la miséricorde pour la pécheresse qu'il relève. Il la relève en lui disant « Va !» et voilà le retour de la loi. Et maintenant ne pêche plus. Encouragé par ce relèvement, par cette onction miséricordieuse, c'est ainsi que son âme n'est pas blessée par une sentence qui aurait fini par l'achever. Elle est relevée par celui qui est la miséricorde et remise avec élan sur le chemin. Voilà l'œuvre de la sagesse. Le Christ est sagesse. Il n'est pas seulement théorie, il est tout autant pratique parce qu'il est amour. L'amour n'est pas seulement théorique, il doit se manifester dans des actes concrets. Et lorsque nous voyons le Christ, la sagesse du Père, la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien nous le voyons nous dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il y a bien sûr l'amour de l'époux et de l'épouse qui nous dit quelque chose du lien qui unit le Christ et son Église. Le Christ a offert sa vie par amour pour nous. Aux yeux du monde, c'est un échec criant. Il est le Verbe de Dieu, un Verbe qui se tait sur le bois de la croix. Il est la présence même de Dieu, éternel, immortel. Voilà qu'il meurt par amour pour nous sur le bois de la croix, mais que le troisième jour, il ressuscite. Là est le cœur de notre foi. C'est ce dont ce jeune homme va être témoin par toute sa vie. Car il ne faut pas trop vite le condamner, ce jeune homme riche. On ne nous dit pas qu'il a donné une fin de non-recevoir au Seigneur Jésus. Je vais garder mes biens, ma maison, secondaire, tertiaire, et je ne sais quoi encore, mes innombrables troupeaux. Et on nous dit seulement qu'il repartit tout triste parce qu'il avait de grands biens. Parce que le Seigneur vient atteindre l'apparence de bénédiction de Dieu. Il faut même que tu te sépares de tout cela, que tu quittes tout cela. Parce que le vrai bonheur réside dans cette sagesse que tu vas obtenir à mon contact. Et cette sagesse est communiquée parce que le Seigneur le regarde et le Seigneur l'aime. Pour nous aussi, le Seigneur pose son regard d'amour. Nous qui sommes pécheurs, il ne nous accable pas par la loi, même si, comme termine l'Épître, eh bien nous aurons à rendre des comptes à cette sagesse de Dieu. Saint Paul nous le disait sans embâge. Pas une créature n'échappe à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout nu. Tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Mais nous savons, puisque nous aurons des comptes à rendre au Seigneur Jésus, que ces comptes seront rendus par amour. Enfin, nous en venons aux disciples. Une fois que ce jeune homme est parti, tout triste parce qu'il possédait de grands biens, je rappelle que rien ne nous est dit si finalement il ne les vendra pas ses biens, il part juste tout triste. Et peut-être que le Seigneur n'a pas voulu que nous ayons la fin de l'histoire parce que chacun avons une histoire, chacun avons à gérer nos propres richesses et nos propres possessions. Je me rappelle un fait dans la vie d'Edith Stein, dans les camps de concentration. Elle a pu voir chez un prisonnier un regard concupiscent presque parce qu'il possédait une cuillère que d'autres ne possédaient pas. Et elle dit, il possédait cette cuillère, c'était pour lui une richesse inégalé, et il fallait voir comment il pouvait se comporter au milieu des autres. Il ne suffit pas de posséder des palais, des millions. Il suffit d'être bien ajusté sur les possessions, parce que tout cela est matériel et passager. En revanche, la vie éternelle, elle, s'ouvrira pour nous. Cette question est celle du salut. Pour les hommes, nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, et même si nous nous efforçons d'observer scrupuleusement la loi, s'il nous était donné d'y parvenir, cela ne garantit pas la vie éternelle. C'est Dieu qui nous sauve. Voilà comment nous devons avoir nos âmes ouvertes et disposées pour accueillir le Christ qui est cette lumière qui vient éclairer les ténèbres de ce monde et les ténèbres de notre vie. Alors, frères et sœurs, demandons au Christ de renouveler ce regard d'amour posé sur nous. Avec Jérémie, nous lui disons « Vous m'avez séduit, Seigneur, à tel moment décisif de ma vie spirituelle, vous m'avez saisi. J'ai senti que j'étais saisi par votre amour. Vous m'avez séduit, continuez à me séduire pour que je sois chaque jour davantage fidèle à votre grâce, fidèle à votre loi, fidèle au sacrement donné par les ministres que vous avez choisis. » Eh bien, frères et sœurs, nous demandons tout cela à la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a toujours gardé et médité tous les événements de la vie du Seigneur. C'est ainsi qu'au pied de la croix, elle ne s'évanouit pas, elle ne tombe pas, elle demeure debout au pied de la croix. La mère des douleurs, c'est vrai, mais la mère surtout de l'espérance. L'espérance qui sait que son Rédempteur, même dans le mystère de sa mort, est vivant. Et le voilà qu'elle le suit dans cette résurrection qui est pour nous le cœur décisif de notre foi. Alors que nous plaçons notre confiance dans le Christ, nous demandons l'aide de Notre-Dame, l'aide des anges, l'aide de tous les saints qui nous permettent d'avoir des exemples concrets de cet amour et de cet abandon du Christ. Ainsi soit-il.